Une nouvelle fois, un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Ce rendez-vous hebdomadaire est toujours une joie pour moi, et je souhaite de tout cœur qu'il en soit de même pour vous. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir de ce que nous pourrions appeler le passage le plus important dans notre vie. Restez donc à l'écoute et prêtez-nous toute votre attention. Vous avez certainement tous entendu parler de l'apôtre Paul. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce grand apôtre de Jésus-Christ était auparavant un farouche adversaire des chrétiens et un persécuteur impitoyable de la jeune Église de Christ. C'est dans les Actes des Apôtres, le 5e livre du Nouveau Testament, que vous trouvez l'histoire de sa conversion spectaculaire. En route vers Damas, capitale de la Syrie, pour arrêter les chrétiens, et ceci avec l'autorisation du clergé juif de Jérusalem, Paul, qui s'appelait alors encore Saul de Tarse, fut soudainement arrêté d'une manière peu orthodoxe. Mais laissons-lui lui-même nous raconter le récit palpitant et peu ordinaire de sa rencontre avec le Fils de Dieu, tel qu'il a partagé avec le roi Agrippa, sa sœur Bérénice, ainsi que le gouverneur romain Festus. Notre lecture se trouve au chapitre 26 des Actes des Apôtres, où nous lisons à partir du verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Au XVIIIe siècle, vivaient en Angleterre deux athées qui s'étaient fixés pour objectif de libérer leur génération de la superstition du christianisme. C'est du moins ainsi qu'ils considéraient la foi chrétienne une vilaine superstition. Pour y arriver, ils savaient qu'ils devaient prouver que ce que l'on considère comme les deux plus grands miracles du Nouveau Testament n'étaient que des fables, des inventions humaines pour égarer l'humanité. Ces deux miracles, ce sont la résurrection de Jésus-Christ et la conversion de Saul de Tarse, appelé plus tard Paul l'apôtre. L'un des deux protagonistes, Lord Lyttelton, devait prouver que Saul de Tarse ne s'était jamais converti, tandis que Gilbert West, son compagnon, avait pour tâche de démontrer que la résurrection de Jésus n'était qu'un conte de fées. Ils se donnaient une année pour faire leurs recherches et écrire leurs livres, après quoi ils allaient se rencontrer de nouveau. Une année plus tard, ces deux hommes se sont revus comme convenu. « J'ai fait toutes mes recherches, à commencer par dire Gilbert West. J'ai examiné soigneusement tous les arguments que l'on avance en faveur de la résurrection de Jésus-Christ, et je suis finalement parvenu à la conclusion que le Christ est réellement ressuscité. » Je me suis converti et j'ai écrit mon livre en faveur du christianisme. J'ai une confession similaire à faire, a repris Lord Lyttelton. Moi aussi j'ai exploré tout le sujet de la conversion de Saul de Tarse. J'ai pesé les pour et les contre, et je suis parvenu à la conviction que ce pharisien s'est effectivement converti et qu'il est devenu l'apôtre Paul à qui nous devons une bonne partie du Nouveau Testament. « Je suis également devenu chrétien, et j'ai écrit mon livre comme un témoignage de la conversion de Saul de Tarse. » L'histoire est authentique, et ces deux anciens adversaires du christianisme se sont réellement convertis. Eux aussi ont eu leur rencontre avec le Seigneur ressuscité et vivant, bien qu'elle n'ait pas été aussi spectaculaire que celle de Saul de Tarse. J'aimerais examiner de plus près la conversion de celui que beaucoup considèrent comme ayant été le plus grand apôtre de tous les temps. Il y a des leçons précieuses à apprendre du parcours de cet homme peu ordinaire. Premièrement, la Bible nous apprend qu'il avait été au bénéfice d'une solide formation religieuse et théologique. Il avait été instruit par Gamaliel, un pharisien qui était considéré comme l'un des meilleurs théologiens de l'époque. Mais toute cette connaissance biblique et théologique ne l'a pas empêché de devenir un farouche adversaire de Jésus-Christ et de son Église. malgré toute son admirable connaissance des Écritures juives, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, et il n'a pas reconnu en Jésus-Christ le Messie promis. Quand beaucoup de ses collègues pharisiens de l'époque, il n'a pas compris les prophéties bibliques concernant le Messie. À l'instar de ses compatriotes, il s'attendait à un Messie triomphateur, vainqueur, et non pas à un sauveur souffrant. Saul de Tarse était profondément religieux, mais il n'était pas sauvé. Il avait une connaissance intellectuelle des Saintes Écritures, sans toutefois les comprendre réellement. En cela, il est loin d'être le seul. Il y a d'innombrables personnes aujourd'hui qui se vantent d'avoir une religion et qui la pratiquent avec assiduité, mais qui sont spirituellement myopes comme une taupe. Chaque fois que les portes de leur église s'ouvrent, ils sont présents. Pourtant, ils n'ont jamais eu une réelle rencontre avec Jésus, le Fils de Dieu. Leur religion est une affaire de leur tête et de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de Dieu. La description qu'a dû faire le prophète Ésaïe du peuple juif de la part du Seigneur s'applique à eux. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Monsieur, madame, s'agit-il par là d'un verdict que le Seigneur doit prononcer à votre égard? Avez-vous plus qu'une simple religion? Possédez-vous une relation vivante et personnelle avec Jésus-Christ, le Sauveur du monde? C'est seulement ainsi que vous pourrez être sauvés. Une deuxième vérité que Saul de Tarse nous transmet, c'est qu'on peut être persuadé de servir le Dieu vivant, tandis qu'en réalité on est devenu son ennemi. Tel fut le cas de ce pharisien orgueilleux. Il persécutait les premiers chrétiens avec un zèle amer et farouche, tout en étant persuadé qu'il rendait un immense service à Dieu. Voici la confession de Paul de la façon dont il agissait à l'égard des disciples de Jésus-Christ. « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Pendant tout ce temps qu'il était persuadé de faire plaisir à Dieu, en combattant ces chrétiens, il était en réalité un farouche adversaire de Dieu et de son œuvre. Que c'est tragique quand on se trompe si terriblement. L'Inquisition est une des pages noires de l'Église catholique romaine. On a persécuté, arrêté, torturé et mis à mort des multitudes d'hommes et de femmes qui osaient croire différemment, qui aimaient la parole de Dieu et qui ne se contentaient pas d'une religion superficielle et éphémère. S'adressant à ses disciples peu avant sa mort, Jésus les avait prévenus. « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Cette prophétie n'a pas tardé à se réaliser, et elle s'est accomplie à maintes reprises à travers les âges. Consultez les pages de l'histoire de l'Église. Elles vous parleront du sang innocent d'authentiques croyants qui a été versé par le clergé qui pensait rendre ainsi un service à Dieu. Oui, chers amis auditeurs, il est tout à fait possible d'être sincère dans ses convictions tout en étant entièrement dans l'erreur. Votre foi en Dieu est-elle basée sur de vaines traditions humaines ou sur la parole de Dieu, la Bible ? Sola Scriptura, seules les Écritures, telle était la devise des réformateurs, et c'est toujours la devise des chrétiens protestants et évangéliques. La conversion de Saul de Tarse nous communique une troisième vérité. Son expérience est une preuve vivante de la souveraineté de Dieu et de son immense amour. Loin de rejeter cet homme qui avait fait tant de tort à son Église, qui était un meurtrier et un homme violent, comme Paul l'a confessé plus tard lui-même, Il a plu au Seigneur de se révéler à Saul et de l'arrêter dans sa course frénétique avant qu'il ne soit trop tard. Il lui a barré la route en l'enveloppant d'une lumière aveuglante et il lui a montré qu'il était en train de lutter pour la mauvaise cause. Sur cette route vers Damas, où Saul de Tarse avait l'intention d'arrêter encore d'autres chrétiens, le Seigneur Jésus est devenu une merveilleuse réalité pour ce persécuteur de l'Église. Aveuglé par cette lumière immense, en provenance du ciel, Saul est tombé par terre. Mais, ô miracle, tandis que ses yeux physiques ne voyaient plus rien, ses yeux spirituels se sont ouverts, et pour la première fois, il a reconnu et compris qui était réellement ce Jésus qu'il persécutait avec tant de haine et de férocité. « Qui es-tu, Seigneur ? » a-t-il demandé. Et le Seigneur lui a répondu, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Enfin, il avait compris qu'il se trouvait dans le mauvais camp et qu'il luttait contre Dieu lui-même. Quel terrible réveil que celui-ci ! Mais quel amour et quelle compassion de la part du Seigneur qui n'a pas voulu que cet homme aille à la perdition, mais qu'il ait, lui aussi, part à la vie éternelle. Mais le miracle de la grâce de Dieu ne s'est pas arrêté là. Au-delà de son appel à la vie nouvelle et éternelle, Saul de Tarse a également reçu un appel de Dieu pour être à son service. Ainsi, le persécuteur de l'Église est devenu le grand apôtre Paul, fondateur de nombreuses églises et auteur de 13 lettres que d'innombrables générations de chrétiens ont vénérées, appréciées et lues avec avidité. Que serait notre Nouveau Testament sans ces précieux écrits d'un homme qui jadis était perdu, qui luttait contre Dieu, mais qui a goûté à cette merveilleuse grâce de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette grâce, elle est toujours là, aussi pour vous, amis auditeurs. Peu importe votre passé, Dieu est puissant pour vous sauver. Sa grâce est suffisamment riche pour vous arracher aux puissances des ténèbres et pour vous transporter dans le royaume de lumière de Jésus-Christ. Ce Dieu qui a sauvé et transformé l'orgueilleux pharisien Saul de Tarse pour en faire le grand apôtre Paul est capable de faire autant pour vous et avec vous. Nous avons appelé notre méditation le passage le plus important de notre vie. Il s'agit du passage de la puissance de Satan à Dieu et des ténèbres à la lumière. Avez-vous expérimenté ce passage ? Ou bien vous trouvez-vous encore sous la puissance de Satan, prisonnier des ténèbres ? Ceci peut changer dans un instant si vous voulez bien vous détourner de votre vie passée pour vous attacher de tout votre cœur au Seigneur. Pourquoi ne pas l'invoquer en cet instant? J'aimerais vous y aider en vous invitant à faire de ma prière la vôtre. Seigneur, je ne veux pas rester dans les ténèbres et sous la puissance de Satan. Je veux vraiment faire partie de tes enfants et de ta famille. Alors accueille-moi, tandis que je t'ouvre mon cœur pour t'y laisser entrer. Pardonne-moi tous mes péchés que je regrette sincèrement. Puisse ton esprit à présent faire sa demeure en moi et m'aider à vivre pour toi seul et pour ta gloire. Merci, mon Dieu, dans le précieux nom de Jésus, ton Fils. Amen. Si vous avez répété cette prière avec sincérité, croyez que le Seigneur vous a déjà exaucé. Je vous souhaite donc bonne continuation avec Jésus. Ce sera mon plaisir de vous rencontrer une nouvelle fois la semaine prochaine. Même jour, même heure, sur cette même longueur d'onde, c'est Jean-Pierre Boly qui vous rappelle que Dieu est toujours plus grand que tous vos problèmes.